On ne peut pas nous dénier le fait d'exister. Il s'agit de nos vies. Et si l'histoire queer est trans, si les aspects politiques de notre identité noire et de notre auto-représentation occupent une place aussi importante dans notre existence, nous ne pouvons pas rester sans rien faire, ne rien documenter, ni rien transmettre. Zanele Muholi.
Zanele Muholi, Faces and Faces, Gazi Tezuma, Umlazi, Durban, 2011. Vous écoutez un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Il y a des regards difficiles à oublier. Celui de Zanele Muholi et de ceux-là. Et ceux qui elle photographie depuis 20 ans aussi. Dans ces regards, on trouve douleur, fierté, colère, beauté et force. Tout ce que les violences et les dominations produisent d'ambivalence. Violence et domination, Zanele Muholi connaît. Noire, lesbienne, non-binaire, elle a grandi dans les townships d'Afrique du Sud, pays de l'apartheid et de la ségrégation raciale. Je précise que l'artiste souhaite être genré au neutre, ce qui, en français, correspond au pronom « elle ». Certaines invitées que vous allez entendre ici emploient parfois le pronom « elle », qui est celui de son genre assigné à la naissance, ce qui explique la navigation entre les deux pronoms. Le corps comme lieu de la déclaration politique, l'occupation de l'espace public, ce que signifie créer des archives des existences marginales, existences noires et existences queer, tout cela est au cœur de cet épisode qui porte sur les 500 portraits de femmes lesbiennes et de personnes queer qui composent la série Faces and Faces.
Pumzile Kenge Pumuelela Nkilenga Refiloe Pizzo Tumi Nkopane Tabile Mbatha Vile Fanti Gazi T. Zuma
Gazi T. Zuma Umlazi Durban 2010
Olivier Font, conférencier.
Dans sa série intitulée « Faces and Phases », initiée en 2006, l'artiste sud-africaine Zanele Muholi photographie des visages, des rencontres, cadrées dans un décor réduit. C'est un inventaire sensible et militant de personnalités qui se révèlent. Gazi Tezuma a été photographié à Umlazi, un township de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. C'est d'ailleurs là que Zanele Muholi est née en 1972. La photographie en noir et blanc mesure 85,5 cm de hauteur sur 60,5 cm de largeur et c'est donc presque à échelle humaine, en face à face, que le modèle vous observe. Une femme noire, masculine, se tient debout, le dos devant un mur défraîchi piqué d'élégantes salissures. Elle tourne la tête et vous regarde avec une certaine défiance teintée de crainte et d'interrogation. Elle ressemble à un soldat au garde-à-vous qui aurait surpris un regard intrus. Son air martial est accusé par son crâne noir rasé et le polo blanc boutonné haut qui claque dans cette photo au gris délicat. Elle pourrait être aussi une détenue, tête rasée, qui défie son geôlier dans la crainte esquissée d'une punition. Une employée ou une ouvrière, surprise à son travail ou en pause. Une sorte de plaque métallique sur fond noir, comme un badge d'identité, se détache nettement près de sa poitrine, qui se devine discrète sous le tissu. Cette plaque n'est cependant qu'une marque, à peine lisible. On peut lire « Men's Collection, London ». Il y a peu d'indices pour dater ce cliché. C'est un portrait qui pourrait appartenir au passé autant qu'au présent. Mais ce regard cependant vous happe et brise le silence qui aurait pu s'installer, arrête le temps qui aurait pu s'éterniser. Zanele Muholi a fait le choix de photographier dans la série Faces and Phases des femmes lesbiennes ou transgenres, tout simplement non conformes au genre, de les révéler dans ce qu'elles sont avant tout, des personnes. Zanele Muholi se reconnaît dans celles et ceux qui regardent l'objectif et offrent leur visage pour témoigner. C'est une possibilité de s'affirmer, de se reconnaître ou de se faire reconnaître. En 2006, quand Zanele Muoli débute la série, l'Afrique du Sud légifère enfin, après la fin de l'apartheid, pour le droit aux sexualités autres qu'hétérosexuelles, à la différence de genre. Mais les lois se heurtent aux mentalités, aux préjugés, et les modèles que rencontre Zanele Muoli ont souvent subi des violences physiques et mentales. Tous et toutes ont fait le choix dorénavant de s'affirmer en regardant l'objectif, et l'artiste s'est donné la mission politique, l'activisme artistique de les faire témoigner, d'offrir leur visage ce qui ressemblerait à la vérité et à la liberté. Être noir et vivre une sexualité différente, afficher une différence est souvent un défi. Et le regard de Gazi Tezuma exprime ce défi.
Bussi Sagasse, Charmaine Carroll, Christine Madonsela, Desiree Higa, Dikiledi Sibanda, Dorothy Magorne.
Zanele ne veut surtout pas qu'on l'appelle artiste, qu'on la qualifie d'artiste, mais Zanele se dit activiste visuel. C'est le terme qu'on lui prête quand qu'on parle d'elle. Et se sert de la caméra comme arme et outil pour faire passer les messages.
Carole Kavneski est galeriste. C'est elle qui représente Zanele Muoli en France.
La série par laquelle Zanele a commencé son travail, vraiment, c'est la série Faces and Phrases. Tout de suite, quand Zanele a terminé ses études, Zanele est rentrée début 2000 au Market Photo Workshop fondé par David Goldblatt, qui par la suite va devenir son mentor. C'est vraiment là où Zanele va travailler son esthétique, va travailler aussi, en tout cas, aiguiser son objet politique, sa vision, et comment elle va pouvoir, en quelque sorte, passer le message au monde.
Son travail photographique est une arme qu'elle sait bien manier, qu'elle sait bien utiliser.
Pascal Obolo est commissaire d'exposition indépendante. Elle dirige la revue d'art Africada, menée par un collectif d'artistes racisés, et elle est co-directrice de l'African Art Book Fair.
Et la série Faces to Faces est une série où Yael a photographié en fait des portraits des personnes issues de sa communauté et aussi des amis proches qui ont soit subi des viols, soit qui ont été violentés justement pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils représentaient.
C'est une violence qui s'exerce au quotidien. Zanele perd beaucoup d'amis. Il faut savoir qu'il y a des violences, c'est correctif, c'est punitif, c'est en espérant que les gens vont rentrer soi-disant dans le droit chemin. Et ça va jusqu'au meurtre, donc Zanele va perdre et enterrer énormément de connaissances et décide de réagir, de dire « stop, on ne peut pas se faire tuer comme ça ». Sans que le monde ne réagisse, sans que notre pays, l'Afrique du Sud, ne réagisse. Donc il faut bien que quelqu'un montre ce qui se passe. Zanele se met à documenter ces drames. C'est comme ça que ça va commencer cette série, Faces and Phrases. Quand Zanele se met à faire cette série, c'est pour montrer l'existence et la résistance des personnes LGBT. Oui, on existe, on fait partie du monde et vous n'y pourrez rien, vous les haineux, vous ne pourrez rien y faire et on va résister. C'est un militantisme fort où on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas tuer littéralement.
Christine Madonsela.
Et on va résister.
Desiree Higa. Dikiledi Sibanda. Dorothy Magorne, Zukizwa Gaka, Futi Mkidze, Bakambile Skotsana, Findile Madlala.
Pour elle aussi, le fait de faire ses portraits en noir et blanc, qui sont magnifiques parce que tout passe par le regard, c'est aussi revendiquer une certaine fierté de ce que Yael, elles sont. Et de dire que Yael, elles sont fières de ce qu'elles représentent qu'elles n'ont pas peur justement de cette violence qui existe dans la société sud-africaine. Quand on regarde la série, ça nous interpelle de voir en fait toutes ces personnes qui nous regardent et qui nous questionnent aussi, qui fait que nous, on doit aussi se questionner comment se positionner face à la différence de l'autre, comment la société doit se repenser d'une manière plus inclusive. Et aussi, il y a une détermination dans le regard en fait, de ces portraits. Elle a une force, je veux dire, dans la manière dont elle photographie en fait, Yael, parce qu'il n'y a pas d'artifice. Là, on peut avoir une certaine lecture, se projeter au travers les récits en fait, de ces personnes. En tout cas, moi, à chaque fois, je suis confrontée en fait, par leur regard, qui a un regard qui décrit quelque part un contexte difficile, qui est aussi le contexte de l'Afrique du Sud, avec une histoire complexe de l'apartheid. On a quand même en fait, discriminé en fait, des personnes, des humains, à cause de leur couleur de peau, à cause de leur identité, de leur sexualité.
L'apartheid, c'était un système politique instauré en Afrique du Sud à partir de 1948 et qui prend fin en 1994. Zanele Muoli avait alors 22 ans. Sous ce régime de ségrégation raciale, les espaces de vie étaient différenciés entre blancs et non-blancs. La propriété foncière était réservée aux blancs et des quartiers, appelés townships, étaient construits en marge des villes pour y déplacer les personnes racisées, comme à Umlazi, à Durban, où Zanele Muoli a grandi.
Et du coup, elle arrive avec tout ce background difficile et violent. Et ben, en fait, elle arrive à transcender en fait, l'histoire de sa communauté.
Et donc, on a cette série qui naît avec ces magnifiques portraits de personnes du milieu queer sud-africain. Ce n'est pas des gens lambda, c'est les gens que Zanele côtoie. C'est les gens, Zanele refuse de les appeler des sujets. Et c'est d'abord des personnes qu'elle fréquente. Elle prend le temps de les fréquenter, d'ailleurs, parce qu'on a des portraits qui reviennent avec le temps, des années après. Zanele suit l'évolution de ces personnes. Et ce sont des gens qui font partie de la communauté, proprement dit, avec qui Zanele travaille, tisse des liens d'amitié, quand c'est déjà pas fait, quand c'est déjà pas les gens que Zanele connaît en amont. Zanele prend le temps de comprendre l'individu qui est en face d'elle. Ce sont des relations vraies, c'est la communauté.
La confiance est ma plus grande préoccupation. C'est mon rôle de garantir une représentation positive qui rende hommage à ce qu'elles sont en tant qu'individus. Comment s'assurer que les participantes, participants, soient en accord avec leur propre image passée, même 15 ans plus tard? Leur vie a pu évoluer et elles s'identifient peut-être différemment, se sont mariées ou ont changé de sexe. Cela peut être difficile. Les sentiments et humeurs changent. Il y a les phases, les phases, qui conduisent vers le futur et des faces, les visages, qui sont saisis dans l'instant, ici et maintenant.
Elle considère sa façon de travailler comme une forme de collaboration. C'est-à-dire que je travaille avec l'autre. Et on est dans la même lutte, dans le sens où son approche avec les participantes, je crois que c'est le terme qu'elle emploie, photographier, en fait, elle n'entretient pas, elle ne met pas en place une relation d'artiste, photographe, avec un modèle ou avec un sujet. Ce ne sont pas des modèles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... un vrai partage des savoirs, un partage des pratiques. Et du coup, elle va créer une forme d'harmonisation et d'harmonie qui va permettre qu'en fait, il y a une confiance qui s'installe entre elle et la personne qu'elle photographie. Et du coup, on a l'impression que, quand on regarde toute la série, qu'elle est proche en fait, de toute sa communauté.
Grâce à ce travail, Faces and Phases, la prochaine génération pourra puiser dans ces archives composées d'images diverses, queer, qui leur serviront de référence visuelle. Ce sont des photos dans lesquelles elles pourront se reconnaître et par lesquelles elles se sentiront représentées. I know the way we live is not the way I learned the way we live is not the way it's not the way it's not the way we live dangerously we live dangerously. Les faits qu'elle fait, en fait, à des personnes queer, racisées, effectivement, il y a cette fierté-là qui est présente, mais aussi, il y a la question de la réparation, dans le sens où le fait de se projeter, de se voir et de se dire « waouh », qu'on n'a plus à se cacher, qu'on n'est plus invisible, avec une attention, un travail esthétique très, très fort. Oui, ça réconcilie beaucoup de gens, ça répare. Ça redonne en fait de l'espoir, je dirais.
Lou Sele, Lungile Cleo Dlala, Magesh Dungu.
C'est le nombre qui est impressionnant aussi. Quand on voit tout un mur de portraits de personnes queer assisées, il y a une énergie, il y a une force qui se dégage dans la... dans la pièce, quoi, où sont montrés, en fait, ces portraits.
Pascal Obolo fait ici référence à l'exposition Zanelle Muoli, qui s'est déroulée à la Maison européenne de la photographie, la MEP, à Paris, au printemps 2023. Les photos de la série étaient rassemblées dans une seule pièce, et lors de cette exposition, comme à chaque accrochage de Faces and Phases, des espaces étaient laissés vides dans la mosaïque de cadres pour figurer les portraits à venir.
Sisile Rogo Nkotsi, Sky Chirape.
Et puis, il y a aussi un côté aussi de recueillement aussi, et de respect, je dirais.
Sande Francis Mdiankomo, Tandi Makane Selepe, Zane Mkize.
Quand on voit, en fait, toute la collection, l'ampleur de l'archivage et l'ampleur de ce travail aussi, quand même, c'est plus de 10 ans, on comprend l'importance de documenter sa communauté, parce que on voit qu'il y a des personnes, justement, qu'elle a rendues visibles, qui sont décédées, qui ont disparu. Il y a des absences. Et justement, ce travail d'archivage nous permet, en tout cas, de comprendre et de pouvoir avoir accès à ces traces de vie de ces personnes.
Justement, il s'agit de documenter. Il ne s'agit pas de faire de l'art. C'est vraiment là toute la différence dans le travail de Zanelle, quelles que soient les séries. Et encore plus dans cette série de Faces and Phrases. C'est un témoignage. Le témoignage de finalement des gens qui lui sont proches. Des gens qui vivent avec elle.
C'est pas un travail purement, uniquement esthétisant. Mais c'est d'abord avant tout un travail d'une femme résistante. Dans le sens où comment résister face à l'oppression tout en... en étant toujours fière et en n'étant pas dans une posture de victimisation. Là, c'est quelque chose qu'elle déteste elle-même. Et même dans les différents témoignages de ces personnages, ils étaient vraiment dans cette posture-là, de ne surtout pas être vus, être considérés comme des victimes. C'est un vrai travail de documentation, c'est un vrai travail d'archivage qu'elle n'arrêtera jamais de faire.
Parce que Zanelle shoot beaucoup et on n'a même pas tout vu. Je ne sais pas si on arrivera à voir tout ce que Zanelle a shooté, tout ce qu'elle a filmé, même dans cette série. Il y a vraiment des centaines de portraits. Alors après, qu'est-ce qui fait ? Ah oui, c'est une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'elle sort certains portraits, pas d'autres ? Ça, je ne sais pas. Et c'est pour ça que quand elle a été cambriolée en 2012... où tout son travail a été volé, elle a fait une crise. Parce que c'est comme si on prenait une partie de soi, tous ces négatifs, tout ce matériel volatilisé, c'était juste comme si on lui arrachait l'âme. C'est là où elle a décidé de retourner la caméra contre elle, pour en quelque sorte trouver un moyen de se soigner et prendre le temps aussi de s'éloigner, non pas de s'éloigner, de mettre une distance, avec toutes ces douleurs, tous ces malheurs rencontrés lors de la documentation des personnes queer sur la série Faces and Phrases. Zanilé avait besoin de se parler à elle-même. Ça, c'est un point de départ à la série Soumyana Ngonyama. Et là, Zanilé devient une lionne. Au lieu de s'éteindre, elle sort les griffes.
Il ne s'agit pas simplement de beauté dans les photos de Somniama, mais de déclarations politiques. Je voulais me servir de mon visage pour rappeler aux gens, quand ils y sont confrontés, l'importance du visage noir, pour qu'on reconnaisse qu'il appartient à un être à part entière, un être pensant, conscient de ses droits. Et si je tenais à ce qu'une personne se reconnaisse dans Somniama, il fallait que ce soit mon propre portrait. Je refusais d'infliger cette souffrance à un autre. Je pensais aussi à la façon dont les actes de violence sont intimement liés à nos visages. Lorsqu'on brutalise une personne, on s'en prend d'abord à sa figure. C'est elle qui perturbe l'assaillant avant qu'il ne se focalise sur une autre partie. Voilà pourquoi le visage est le point focal de la série. Je me fais face tout en faisant face au spectateur, à l'appareil photo.
Somniama Ngonyama, cela veut dire en zoulou « Salut à toi, lionne noire ». Dans cette série, Zanele Muyoli réalise des autoportraits au gré de ses voyages dans le monde, dans les chambres d'hôtel, avec des objets qu'elle trouve à sa disposition. Chaque portrait devient le témoin d'une expérience personnelle ou collective.
Même s'il s'agit de moi dans Somniama, chaque portrait de la série porte un nom. Et par là, je restitue une forme de respect à certains de ces anonymes qui ont tous des noms autochtones. Les noms bantous ou zoulous sont difficiles à prononcer, le titre de la série aussi. Pourquoi Somniama Ngonyama? C'est un autre moyen de réappropriation. Le zoulou, ma langue maternelle, est l'une des 11 langues officielles de l'Afrique du Sud. En retirer de la fierté est important. Quand je photographie, je pense en zoulou. S'il est une chose de Somniama à garder à l'esprit, c'est que l'être humain mérite le respect. Il mérite d'être reconnu.
À peu aller explorer d'autres médiums, à peu aller explorer d'autres récits, d'autres pratiques artistiques, elle peut faire de l'autoportrait pour pouvoir en fait se raconter elle-même autrement. Mais même si elle se raconte via les autoportraits, c'est toujours en résonance avec le récit collectif. C'est toujours en résonance par rapport à sa communauté.
Exposer une autre personne serait trop difficile. Le militantisme vous vide, vous tue. J'ignore le nombre de photographes qui sont hantés par la photographie, simplement en y pensant ou en regardant, sans se rendre eux-mêmes en zone de guerre. Vous savez, cette zone dévastée par la guerre. Ce n'est pas la peine de voir du sang pour être traumatisé. Mes images, mes visages me hantent, et la plupart n'expriment pas la joie.
Il y a une forme de résilience qui est suivie d'actes politiques. C'est quelqu'un dont les actes sont très importants. C'est-à-dire que c'est pas juste je parle des miens, je questionne la société, mais c'est aussi comment mon travail peut transformer la société. Et donc c'est quelqu'un qui est dans l'action politique.
Une action politique qui n'est pas seulement artistique. Zanele Muyoli a notamment monté un club de football qui rassemble des lesbiennes noires victimes de crimes de haine, un club que connaît bien Cécile Chartrain. Elle est cofondatrice des Dégommeuses, une équipe de foot en mixité choisie qui milite contre les discriminations dans le sport et par le sport.
Alors, moi, j'ai connu l'œuvre de Zanele Muoli via un collègue. Je terminais une thèse en sciences politiques et j'étais engagée dans le comité de rédaction d'une revue de jeunes chercheurs et chercheuses. Et j'ai appréhendé l'œuvre de Zanele Muoli de cette manière et j'étais transportée par ses photos, son univers. Du coup, je lui ai proposé d'illustrer un des numéros de la revue. Et on a été en contact comme ça. Je me suis renseignée sur son parcours. J'ai lu des choses et j'ai découvert qu'elle avait fondé une équipe de foot en Afrique du Sud, dans le township d'Umlazi, dans les environs de Durban.
My name is Tera Dick. I am a Xhosa, I am a lesbian and I am a soccer player. I live in Cape Town, in South Africa. In 2010, I met Zanele Muoli. Zanele is the founder of a unique soccer team. She introduced me to the Thokozani Football Club. Thokozani Football Club is a black lesbian soccer team from Umlazi Township in Durban. In South Africa, lesbians are victims of hate crime.
Le fait est que l'équipe a été créée en réponse aussi au meurtre d'une d'entre elles, d'une footballeuse qui s'appelle Tokozani Kwabe, qui a été assassinée en 2006 ou 2007. Je crois que l'équipe est fondée ensuite en 2008 par Zanele. Et il y a cette volonté de s'inscrire dans la lignée aussi de Tokozani, qui était une femme, une footballeuse visible en tant que lesbienne et qui travaillait pas mal aussi autour des questions d'intégration des femmes dans le football. J'ai proposé aux copines d'organiser une semaine d'action à Paris, d'inviter Zanele avec son équipe de foot, ce qui s'est fait en juin 2012. Et ça a été l'occasion d'organiser un match au Parc des Princes, mais aussi la toute première expo de Zanele Muoli à Paris. On n'en est pas peu fiers. C'était à l'espace Canopy, qui est une galerie engagée dans le 18e arrondissement. Donc c'était intéressant parce que ça permettait de s'inscrire dans la même logique que celle de la galerie, qui est d'amener l'art là où il y en a peu, c'est-à-dire dans les quartiers populaires, et puis en même temps de remettre un peu en question les préjugés racistes et classistes sur l'homophobie dans les quartiers populaires et qui sont habités majoritairement par des immigrés. Ça faisait sens. Il y a cet enjeu autour de la visibilité lesbienne, de l'expression de genre aussi, qui est fort. On a pas mal échangé sur ces choses-là, quoi. Et je pense qu'elle avait une représentation de l'Europe et de la France en particulier, qui était celle d'un pays très libre, avancé, et quand elles se sont rendues compte, si certes la lesbophobie s'exprimait sous des formes peut-être moins violentes physiquement en France qu'en Afrique du Sud, en fait, il y avait beaucoup de préjugés et que du coup nos combats étaient quand même assez proches. Art et sport ne sont pas des pratiques déconnectées du reste de l'activité sociale. Au contraire, des pratiques qui participent à la construction d'un être ensemble. Zanele, je pense que son idée, c'est justement que l'art, il n'est pas forcément là que pour faire joli et susciter des émotions spontanées, ce qui est important. Et pour le coup, c'est déjà super et politique, finalement, en soi. Hein. Donc il y a en fait deux dimensions. Peut-être, si on veut résumer, il y a une dimension plus de l'adresse publique, avec une vocation pédagogique et de sensibilisation, presque. Tu vas travailler à questionner les normes de genre et les représentations dominantes et proposer des alternatives, donc visibiliser pour Zanele les personnes queer noires. Et pour nous, les dégommeuses, notamment travailler autour de la visibilité lesbienne dans le milieu du foot, où c'est un petit peu caché, c'est lesbienne qu'on ne saurait voir. C'est-à-dire, les femmes qui jouent au foot, c'est OK. Mais à partir du moment où elles présentent des gages de féminité et / hétérosexualité, qui sont rassurants pour la majorité. Donc dimension publique et une recherche de transformation, de changement social par ce biais-là, mais aussi une dimension plus communautaire, de travail autour de l'empowerment, d'une émancipation, une affirmation de soi, reconstruction de l'estime de soi. Et la pratique sportive le permet. Pour nous, le sport, il est politique. C'est un outil de changement social, c'est un outil d'affirmation pour les minorités, qui est un outil de travail autour du questionnement des normes de genre, de la proposition de nouvelles représentations à travers la visibilité des minorisés. Donc voilà, je pense que de ce point de vue, il y a une forte résonance entre ce que nous, on fait dans le cadre des dégommeuses et puis ce que Zanele essaie de faire dans le cadre de sa proposition artistique.
Un autre lien entre le sport et le travail artistique de Zanele Miholi, c'est le fait d'inscrire les corps queer dans l'espace public, et pas seulement privé.
En tout cas, il y a un vrai questionnement sur la représentation des corps queer dans les espaces publics. Et toute cette masse de documentation, d'archivage qu'elle fait dans sa communauté, le fait de voir en fait, ces corps-là dans les espaces institutionnels, c'est aussi une manière de dire voilà, qu'on est là, et c'est aussi une manière de défendre quelque part ces corps fragiles, ces corps violentés dans nos espaces publics et dans nos sociétés d'aujourd'hui. La non-représentation en fait, des personnes racisées au sein des musées, et c'est pour ça aussi que le travail qu'elle fait, la manière dont elle travaille, quand elle vient dans, justement dans des espaces où justement toute l'équipe est totalement blanche, elle vient jamais seule. Elle vient toujours avec sa communauté. Elle essaie d'ouvrir justement les portes pour les autres. À chaque fois, elle dit, voilà, c'est pas moi qu'il faut interviewer, je suis venue avec mon collectif. Elle fait ça, elle fait ça, elle représente ci, elle a des super récits, elle a un super travail. Elle essaye vraiment de les aider, de les soutenir. C'est sa façon à elle, je pense, de lutter justement contre le fait qu'il n'y ait pas assez de personnes racisées représentées dans les musées. Pour elle, c'est vraiment important parce qu'elle dit que à chaque fois qu'elle expose dans un espace, eh ben, cet espace aussi devient l'espace des racisés. Elle dit, ben, le fait que moi je suis là, ça veut dire que c'est aussi chez vous. Tu vois, il y a très peu d'artistes qui sont comme ça, qui sont avec cette générosité, cette prise de conscience comme ça, et puis cette manière de s'infiltrer et d'infiltrer en fait sa communauté dans les institutions. Elle a une maîtrise totale par rapport à ça.
Nkunzi Nkabinde, Asanda Fanti, Refilwe Malava, Smangele Mzizi, Ayanda Magolotsa, Belinda Ndandani, Zibenzile Nkosi, Sisifo Nzuzo, Tandi Mankane Selepe.
C'est un travail qui voyage énormément, qui voyage beaucoup. Donc ça veut dire que ses corps voyagent beaucoup. Alors que dans la vraie vie, c'est des corps qui ont beaucoup plus de mal à exister dans les espaces publics, à voyager, pour essayer de faire venir en fait une partie de son collectif. Ça a été très très dur, elle a dû se battre pour la question des visas. Tu vois, on ne voyage pas, ces corps-là ne voyagent pas facilement, comme ils voudraient, comme d'autres corps aussi. Et justement, son travail, qui voyage plus facilement, permet en tout cas, de faire en sorte que ces corps existent dans différents espaces institutionnels ou publics.
Les deux séries dont on a parlé dans cet épisode, Sonia Magonyama et Faces and Phases, sont toujours en cours. Et difficile de savoir ce que Zanele Miholi envisage pour le futur.
C'est comme si on me disait ce que j'étais dans la tête de... On me demandait si j'étais dans la tête de Zanele. Mais Zanele est très difficile à saisir. Je pense que même Zanele ne le sait pas. Il faut juste être patient avec Zanele pour, non pas pour comprendre qui elle est, mais pour vivre avec. Et du coup, voir. Et Zanele, c'est l'instant qui se présente. C'est jamais prévu, c'est jamais calculé. C'est l'instant de vérité. Je dis tout, c'est vraiment l'instant traduit la vérité parce que c'est... La spontanéité, on le fait pas semblant quand c'est spontané.
Après tout, saisir l'instant, c'est peut-être la meilleure définition de la photographie.
Exactement. Parce qu'une demi-seconde avant ou une demi-seconde après, ce n'est plus la même réalité.
Merci à Pascal Obolo, Carole Kavneski et Cécile Chartrain pour leur participation à cet épisode. Merci à Mélissa Lavaux d'avoir prêté sa voix. Les citations lues sont extraites d'entretiens réalisés avec l'artiste et publiées dans le catalogue de l'exposition Zanele Muoli à la Maison européenne de la photographie et dans la monographie Sonnyaman Gonyama, Salut à toi, Lyon Noir. Un podcast, une œuvre est une émission du Centre Pompidou, écrite et réalisée par Camille Regache, produite par Clara Gouraud, mixée par Yvan Gariel et habillée par la musique de Nawel Benkrayem et Nassim Kouti. Et je voulais vous laisser, pour la toute fin, les mots de Pascal Obolo.
Pour moi, quand je pense au travail de Zanele Muoli, je pense à des énergies, je pense à des forces. C'est en ça que ce travail est queer. Il y a des énergies qui, quelque part, sont présentes et aussi avec des corps résistants. Et quand on regarde, en fait, tout son travail, c'est cette énergie de résistance qui, moi, je pense, incarne cette communauté queer.
Tabile Mbata. Tobeka Bengusia Nkuta. Lesego Twale. Zanele Muholi.